J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Rentière. Frédéric, bonjour.
Bonjour Christine.
Alors, on vous connaît sur l'antenne RCF Alpes-Provence. Nous avons eu l'occasion de vous rencontrer pour parler du chant grégorien à l'occasion de plusieurs émissions. Et pour vous présenter, vous êtes chanteur médiéviste et chef de chœur. Et bien d'autres choses, mais j'ai quand même épuré un petit peu toute la liste
Oui.
de vos diplômes, on va dire. Alors, vous venez nous parler aujourd'hui, nous inviter à une conférence à l'UTL de Gap qui va avoir lieu, donc l'UTL, l'Université du Temps Libre, qui est prévue le mercredi 2 mars prochain à 18h30. Est-ce que vous pourriez nous parler du thème que vous avez choisi?
Alors, j'ai proposé une conférence sur les chants de Hildegard de Bingen, la célèbre abbesse qui aujourd'hui est très connue pour ses préceptes, notamment en médecine médiévale, qui sont beaucoup réactualisés. Mais là, donc, ma conférence va porter essentiellement sur le caractère révélé de son œuvre vocale, qui est intéressant. Parce qu'il est en fait, tous les chants sont eux-mêmes extraits de, ce sont, sont le fruit d'une longue, de longue inspiration, de rencontre avec des créatures célestes, puisque Hildegard de Bingen avait des visions. Et je souhaite repartir, proposer un grand voyage dans les écrits d'Hildegard de Bingen pour en extraire ce que le chant représentait pour elle, les vertus qu'il avait, et aussi ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui, justement.
Alors, est-ce que toute l'œuvre d'Hildegard de Bingen est venue jusqu'à nous, en fait, aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si on peut affirmer que toute son œuvre est arrivée jusqu'à nous, mais en tout cas, nous avons ce qu'on appelle un corpus, un ensemble de plusieurs corpus, on pourrait dire, c'est-à-dire, il y a des œuvres, il y a des ouvrages sur les visions, il y a ce dont je vais parler, la symphonie. Qui est en fait ce qu'on appelle la symphonie, qui est en fait symphonie de l'harmonie des révélations célestes. Ça, c'est le titre qu'emploie Hildegard, et en fait rassemble le corpus de l'ensemble des chants, alors qu'elle dit ne pas avoir composé, mais qu'elle aura reçu sous forme d'inspiration angélique. Il y a en plus l'Ordo Virtutum, l'ordre des vertus, qui lui est un drame en fait qui resitue l'âme prise entre les vertus et les vices. D'ailleurs, c'est des extraits de l'ordre de vertu que nous travaillerons pendant le stage de chant grégorien, peut-être dont on parlera après, qui suivra la conférence. On a aussi les œuvres, on a sa physique, qui est en fait une physique des éléments, où on trouve notamment, dans laquelle on trouve notamment le traité des pierres, qui est aujourd'hui assez célèbre, je crois. Et puis, en fait, une physique des éléments, comme qui est assez dans la tradition antique, hein, fidèle à la tradition antique. Et puis, on a bien sûr les causes et les remèdes, qui lui est sa médecine, qui repart des éléments de physique élémentaires et qui ensuite propose des remèdes à partir des causes des maladies. Voilà, donc c'est gigantesque. Enfin, on a quand même trois corpus, finalement, d'œuvres. Et moi, ce dont je vais parler, c'est bien sûr de ces chants.
Oh, une petite question à part, est-ce que les chants sont thérapeutiques? Est-ce qu'on peut
Ah,
penser?
ben ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Il y a bien sûr un postulat, on doit dire post-moderne, nous sommes dans une époque qu'on dit post-moderne, c'est-à-dire où on revient justement, on a perdu confiance dans le progrès, on ne voit plus comme une toute puissance invincible, et donc du coup on est dans une époque où effectivement on s'intéresse notamment au chant d'Hildegard de Bingen et à d'autres, bien sûr à toute autre tradition, notamment vocale, orale, où on retrouverait des propriétés curatives, apaisantes, qui soient aussi libératrices, hein. Le chant a souvent une fonction aussi liée à l'exorcisme, liée à la purification de l'âme. Hein. Je ne fais qu'évoquer des thèmes généraux, mais on le sait tout ça. Donc oui, la question se pose. Est-ce que le chant d'Hildegard est thérapeutique? Alors, si on reprend, moi ce que je vais proposer, c'est de repartir des textes d'Hildegard. Elle ne dira pas, n'emploiera pas l'expression thérapeutique, parce que ça, c'est vraiment une expression justement de notre époque, bien de notre époque. Hildegard parlera plutôt d'une mémoire, d'une conscience que le premier Adam avait, et qui était justement liée à l'harmonie des sphères, qui était une conscience harmonique naturelle, immanente, on pourrait dire, qui demeurait dans le premier homme, et puis qui s'est perdue et qui doit pouvoir justement grâce au chant liturgique, grâce à la pratique de la louange divine, ça c'est l'expression qu'emploie Hildegard de Bingen, pouvoir refonder en lui cette conscience harmonique qu'il a perdue, que l'humain a perdue. Donc c'est plutôt dans ce langage-là qu'Hildegard va nous parler de ce que nous on va appeler les vertus thérapeutiques, ce qui n'est pas faux, puisque quand on parle de vertus thérapeutiques, c'est qu'on sous-entend qu'on veut soigner quelque chose qui souffre, qui a besoin de soins, qui a besoin aussi de remèdes. Donc le chant en soi, oui, est un remède pour Hildegard de Bingen. C'est un remède qui nous replonge dans le paradis, qui nous replonge dans notre état paradisiaque originel. Après, ça nous remet bien sûr dans une histoire de l'humain qui est propre à une femme du Moyen Âge et à tout théologien du Moyen Âge, avec l'idée d'un paradis dont on aurait été ensuite expulsé. Et ensuite la quête de retrouver le paradis, mais cette fois-ci dans sa version céleste, dans une union avec le divin. Voilà.
Alors Frédéric Rentière, est-ce qu'il y aura des illustrations sonores un petit peu lors de cette conférence?
Oui, voilà. Donc j'ai prévu de donc ce que je prévois, c'est de faire un de repartir des textes d'Hildegard et de développer sa pensée, parce que je veux faire un travail quand même d'historien de sa pensée, pour ensuite nous amener à ramener les auditeurs à écouter des chants d'Hildegard de Bingen en prenant appui sur des enluminures de l'époque de l'auteur pour vraiment repositionner le chant dans sa fonction. Alors, je vais employer un terme un peu plus savant, cosmologique. C'est-à-dire que les chants d'Hildegard se comprennent, ont un nom de sens, que s'ils sont remis dans la géographie du monde qu'Hildegard avait dans son esprit. Et ils font toujours référence soit à la hiérarchie ce qu'on appelle la hiérarchie céleste, c'est-à-dire la structure céleste autour du trône du Père, hein, du Père divin, où elle va faire référence à d'autres zones du globe terrestre ou à d'autres zones du cosmos, puisque Hildegard a toujours une cartographie, une géographie du monde. Quand elle a ses visions et ses chants eux-mêmes sont inspirés de ses visions. Donc, ce que je vais proposer, c'est d'écouter les chants, mais en repartant, en guidant l'écoute à partir de la pensée d'Hildegard pour sortir un peu des clichés d'écoute habituels sur l'auteur où souvent on a tendance un peu à projeter notre propre vision du monde sur ses chants. Je trouve que c'est intéressant de repartir des visions d'Hildegard de Bingen. Voilà. Pour écouter ces chants.
Donc voilà un petit aperçu de votre proposition pour cette conférence à l'UTL de Gap, l'Université du Temps Libre, le mercredi 2 mars à 18h30. Mais ce n'est pas tout, il y a une suite. Et notamment, vous venez régulièrement à Gap pour proposer des stages. Et un stage est organisé du jeudi 3 au dimanche 6 mars, c'est ça?
Tout à fait. Donc un stage organisé par le chœur grégorien des Hautes-Alpes, que je dirige depuis maintenant un certain nombre d'années, et qui donc a souhaité cette fois-ci faire un travail d'initiation, de découverte et aussi d'approfondissement de chants d'Hildegard de Bingen. Et donc là, j'ai choisi des extraits de l'Ordre des Vertus, qui sont donc un dialogue entre les vices et les vertus, un affrontement, on pourrait dire, entre les vices et les vertus. Et c'est une espèce de mise en scène, en fait, symbolique, hein, de ces forces du bien et des forces du mal. Et bien sûr, la manière dont l'âme, elle, va s'allier aux vertus pour vaincre les forces du mal et triompher et trouver la félicité qu'elle est venue chercher. Et donc, tout le travail va consister d'abord à bien comprendre les textes, à les resituer dans leur contexte liturgique, hein, qui est au milieu du XIIe siècle. Ce sont des chants qui ont été composés pour la dédicace du monastère du Rupertsberg, où Hildegard avait la chance inouïe de pouvoir pratiquer ses propres chants liturgiques, ce qui à l'époque était extrêmement rare. Et puis ensuite de comprendre les modes de chant d'Hildegard, parce que les modes de chant qu'elle emploie sont complètement en dehors des cadres de l'époque. On n'est pas du tout dans le chant grégorien, on ne reconnaît pas les formes de chant grégorien, on ne reconnaît pas non plus la manière d'organiser les sons entre eux, hein, ce qu'on appelle les modes. Et donc c'est aussi un stage où on va se plonger dans l'univers sonore d'Hildegard de Bingen. On va se replonger aussi dans les résonances harmoniques de cette époque, de ce milieu du XIIe siècle où l'auteur justement a vécu avec ses moniales une expérience mystique extraordinaire. Et puis on va bien sûr prendre le temps aussi de sentir dans son corps, de développer une technique de souffle et de résonance suffisante pour pouvoir justement faire éclore ces chants qui sont quand même fantastique.
Alors, le chant grégorien sur les Hautes-Alpes, donc c'est plusieurs personnes qui se sont réunies pour autour de vous, hein, Frédéric Rentière. Hein. Est-ce qu'il est oui. possible de, quand même de suivre ce stage, mais bien sûr avec des bases, je suppose.
Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le chœur grégorien des Hautes-Alpes ouvre ce stage à des débutants et à des gens qui ne sont pas membres réguliers du chœur. Bien sûr, il y a des membres réguliers, puis il y a des membres qui, eux, viennent de temps en temps, et des gens qui, des fois, ne viennent qu'une seule fois. Donc déjà, il faut savoir que ce stage est ouvert aux débutants, qu'il n'est pas en vase clos, qu'il est bien ouvert à toute personne qui veut découvrir le chant d'Hildegard de Bingen ou le chant grégorien dans le cadre d'un autre stage. Alors, est-ce qu'il faut des bases? Oui et non, parce que bien sûr, si quelqu'un a fait déjà pas mal de musique, c'est très bien. Mais j'ai envie de dire que, et ça c'est par expérience, une expérience de pédagogue dans ces musiques-là, j'ai des gens qui n'ont jamais fait de musique et qui s'en sortent très bien parce qu'en fait ils sont dans l'écoute, ils se laissent imprégner et par imprégnation et par répétition spontanément, ils arrivent à intégrer le chant et à le produire.
C'est une question d'oreille.
C'est bien sûr une question d'oreille, mais alors quand on parle d'oreille, il faut parler aussi de ce qu'on entend, de ce qu'on fait soi-même. C'est-à-dire qu'on peut entendre très bien une musique, entendre bien les sons et même être capable de dire ce son-là, on a chanté ça à tel intervalle. Hein. Il y a des gens qui spontanément entendent bien les intervalles, mais et puis après, il y a aussi ce qu'avec sa propre voix. On fait et ce qu'on entend de ce qu'on fait. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pour ça que souvent les gens se limitent en disant moi je ne ferai pas un stage comme ça par exemple parce qu'il faut avoir une très bonne oreille, il faut avoir fait beaucoup de musique. C'est faux, c'est pas vrai, c'est pas de cet ordre-là. Après il y a aussi autre chose qui est important que bien sûr l'écoute, mais ce qui est important c'est enfin plus que l'oreille justement c'est l'écoute, c'est-à-dire le désir vraiment de recevoir, le désir de recevoir et d'être transformé et de communiquer avec d'autres, puisque ces chants se font toujours en présence de l'autre, on ne peut pas le faire soi-même tout seul, c'est un art collectif, de le partager et de former une unité avec ça. Donc c'est quelque chose qui relève plutôt d'un désir d'écoute, de réception et après de partage. C'est pas forcément une question d'oreille ou de capacité ou d'avoir reçu une initiation particulière. C'est absolument faux. C'est comme pour le chant grégorien, ce que je répète tout le temps, c'est que le chant grégorien, comme le chant d'Hildegard de Bingen, même s'ils ont des différences, ils reposent tous sur des mécanismes d'oreille très instinctifs, très archaïques, en soi très simples, mais qu'on a un peu perdu dans notre époque où on est inondé de toutes sortes de musiques et où notre oreille est un peu écartelée entre des styles qui n'ont pas de lien entre eux. Mais en fait, ce sont des mécanismes assez naturels. Au Moyen-Âge, évidemment, on pratiquait beaucoup plus. Donc, ne serait-ce que la psalmodie, ne serait-ce que la déclamation d'un texte sur une note tenue, c'est pas, voilà, ça ne demande pas une initiation particulière, ça demande surtout une disponibilité, un désir d'écoute et un désir de partage et de voilà, de vivre une expérience où le chant va se mettre au centre, va occuper la place centrale et va nous réunir. Voilà, va faire de nous une espèce d'égrégore, une espèce de cœur battant, vivant, quoi. Quelque chose que de l'ordre d'un cœur, en fait. Cœur sans H et cœur avec H, mais les deux en même temps. En fait.
Alors Frédéric, si quelqu'un se sent appelé à suivre, à vivre ce stage avec vous, comment peut-il vous contacter?
Alors, soit il... Alors là, en fait, là, j'ai la fiche sous les yeux qui est sur mon site internet, donc la brochure pour s'inscrire. Le plus simple, c'est de contacter notre présidente, Odile Ries, au 04 92 53 65 73, 04 92 53 65 73, ou par mail grégorien.gap@orange.fr.
Frédéric Rentière, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne conférence et un bon stage dans les Hautes-Alpes. Merci.
Merci
Au
aussi.
revoir.